C'est l'heure de votre émission Dialogue entre Congolais avec Alain Ngonga, la présentation.
Bonsoir. Assemblée nationale, adoption hier mardi du projet du budget 2010 dont le montant s'élève à environ 6 milliards de dollars. Quelles sont les priorités de ce projet de budget? Nos invités sont Jean-Lucien Boussa, député national MLC et vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Docteur Baudouin Boissa, également dans ce studio, médecin et membre de l'opposition extra-parlementaire. Bonsoir, docteur.
Bonsoir.
Maître Jean Bouillou, député national de la majorité présidentielle et vice-président de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Il va nous rejoindre dans un petit moment. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Avant d'aborder le sujet proprement dit de ce soir, nous allons faire un clin d'œil à l'actualité. Vous le savez, le sénateur Jean-Pierre Bemba reste en détention provisoire dans l'attente de son procès. Cette décision de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a été publiée ce mercredi matin. Ce nouvel arrêt annule la décision de mise en liberté provisoire accordée à Jean-Pierre Bemba le 14 août dernier. En réaction, la défense de Jean-Pierre Bemba, elle, espère encore une liberté provisoire du sénateur. D'après l'un des avocats, la Chambre d'appel n'a fait que donner des orientations nouvelles. Maître Aimé Kilolo précise donc que le sort de Jean-Pierre Bemba quant à sa liberté provisoire ne sera fixé que dans moins de deux semaines. Je vous demande à tous juste un bref commentaire par rapport à cette actualité. Jean-Lucien Boussa, député national MRC.
Je crois que mon commentaire est simple. Nous avons toujours dit et nous ne cesserons de le dire, le procès Jean-Pierre Bemba à la CPI est une question politique. Ce n'est pas une question judiciaire, la justice est au service de cette politique, de ce que j'appelle la mafia politico-financière internationale avec des laquais locaux donc, qui sont à la base de cette situation. Je m'en vais pour preuve vous indiquer trois éléments de cette espèce de politisation du procès. Rappelez-vous que dans l'arrêt qui rejette donc la liberté provisoire du sénateur Jean-Pierre Bemba, les juges indiquent que Jean-Pierre Bemba libre constituerait une menace contre le témoin. Et ils ont mis en évidence la mascarade qui a eu lieu dans les résidences de M. Ndoundou et de M. Tambo Mamba. Rappelez-vous que lorsque la juge octroie la liberté provisoire au sénateur Jean-Pierre Bemba, quelques jours avant, le procureur Mourenne était à la quête de preuves pour justifier son appel. Et une grossière affaire d'une véritable manipulation politique s'est organisée à Kinshasa, n'est-ce pas, pour indiquer que Jean-Pierre Bemba libre serait une menace contre nos témoins. En ce qui concerne les MLC, nous ne savions pas. Et nous ne savons pas encore si M. Tambo Mamba et M. Ndoundou sont les témoins à charge. Deuxième argument, évoqué par l'arrêt du juge de la Cour pénale internationale, le juge d'appel, c'est lequel? Ce que le juge dit, M. Jean-Pierre Bemba aurait pu négocier, les conditions de libération auraient pu être déterminées bien avant que le juge ne se prononce. Mais non, rappelez-vous que alors que la juge unique était en train de vouloir, n'est-ce pas, se prononcer sur le pays d'accueil, c'est au niveau de l'appel qu'on va demander de sursoir. Cela en attendant qu'on examine, n'est-ce pas, l'appel de Moreno. Ça, c'est le deuxième argument.
Troisième argument.
Vous savez que dans l'arrêt qui est rendu, les juges indiquent que M. Bemba, en tant qu'héritier, serait devenu plus riche qu'avant. Mais j'ai trouvé ça abominable, cher ami. N'est-ce pas? En rapport avec le fait que les conditions ne sont pas fixées avant le jugement, je voudrais vous dire, par exemple, que il y a un cas au niveau de la Cour pénale internationale de M. Roman Polanski, n'est-ce pas, qui a été libéré avant même que les conditions ne soient définies. Je voudrais...
Voilà. Docteur Boissa, comment vous avez accueilli cette actualité?
Moi, je n'ai pas été surpris par cette nouvelle parce que je suis convaincu que Jean-Pierre Bemba, président du MSC, président de l'Union pour la Nation, a été kidnappé à Bruxelles par une conspiration... une double conspiration interne et externe pour l'empêcher tout simplement d'organiser l'opposition politique, c'est-à-dire l'alternance au pouvoir actuel. Et à partir de ce moment-là, tout a été permis pour fausser un procès qui n'en est pas un, en fait. Hein? Pour nous, Jean-Pierre Bemba, c'est un prisonnier politique, et l'impression que nous avons, c'est qu'on fait tout pour qu'il ne soit pas là en 2011, si jamais 2011 existait, parce qu'il n'est pas évident qu'en 2011, il y aura élection.
Voilà, ça c'est un autre débat.
C'est clair. Donc nous comprenons ça, mais on se trompe, parce que si ce n'est pas Jean-Pierre Bemba, ce sera quelqu'un d'autre. Le peuple choisira peut-être quelqu'un d'autre pour porter cet étendard hein, de toute cette misère qui s'accroît dans le pays. Voilà.
Je pense que c'est une grande déception pour vous.
C'est une déception. Non, je ne suis pas déçu. Je vous ai dit que je n'étais pas surpris.
Vous vous y attendiez.
Parce que, pour moi, cette Cour pénale, c'est un machin. Comme De Gaulle disait que l'ONU, c'est un machin, de même, je considère que cette Cour pénale, c'est un véritable machin.
Maître Jean Bouillou, vous êtes en ligne, député national de la majorité présidentielle et vice-président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Votre commentaire par rapport à l'actualité sur Jean-Pierre Bemba?
Bon, écoutez, personnellement, ça ne m'a pas étonné, parce que les juges ne pouvaient pas accorder la liberté provisoire à un sujet dont ils n'étaient pas sûrs de son retour sur, disons, au tribunal. Et même en droit interne, il est toujours difficile de mettre quelqu'un en liberté dès lors qu'on n'est pas sûr qu'on peut mettre la main sur lui facilement. Il fallait des engagements. Hein. Ces engagements n'ont pas été donnés par qui que ce soit. Malheureusement, la République démocratique du Congo n'était pas concernée par cette option-là, ce choix-là. Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas que nous fassions de l'amalgame non plus. Hein. Il ne faut pas attribuer au gouvernement congolais ce qui ne relève pas du tout de lui, notamment commencer à parler de prisonniers politiques. Et Jean-Pierre Bemba est poursuivi pour des problèmes survenus en Centrafrique, accusé par la République centrafricaine. Ce n'est pas une question de droit interne, c'est une question de droit international et qui se passe à l'extérieur de nos limites. Donc là, il n'y a pas d'amalgame à faire. Et moi, j'ai du respect pour la Cour pénale internationale parce que c'est une juridiction qui est l'émanation des activités des ONG. Ce sont des ONG de droits de l'homme, de justice notamment, qui ont réclamé cette juridiction et qui l'ont finalement obtenue après des années de lutte. Alors de là, aller dire que non, voilà, c'est un machin, là, sincèrement, c'est regrettable.
Voilà, nous allons passer à notre thème du jour parce que là, ce n'était vraiment qu'un... Je ne vous ai demandé qu'un commentaire. Je vois là, Dr. Boussa et Dr. Boissa et Jean-Lucien Boussa demander parole. Un mot, un dernier tour de table pour clôturer ce thème.
Non, mais je suis très étonné que des responsables politiques congolais, l'élite que nous sommes, nous soyons aussi indifférents à l'injustice internationale. Je veux le président rwandais, lorsque le choc des protocoles rwandais est arrêté à l'étranger, le président s'est déplacé lui-même. Je veux au Tchad, lorsque les Français sont accusés de voler les enfants, le président français lui-même descend sur le terrain. Je suis étonné qu'en République démocratique du Congo, qu'un intérêt ne soit pas accordé à un leader politique de la trempe de Jean-Pierre Bemba et que l'on considère qu'il s'agit de la magane. Moi-même, j'ai posé la question au président de la République pour lui dire lorsqu'il nous a reçu, Monsieur le Président, mais qu'est-ce que vous pour être Congolais?
Quelle était sa réponse?
Le président m'a dit que c'était la première fois qu'un citoyen congolais lui pose la question, comme s'il avait besoin qu'un citoyen lui pose la question. Je voudrais vous dire ceci, mais c'est une affaire qui a construit les acteurs. Ok. Les acteurs centrafricains directs, le président Félix Patassé et le président aujourd'hui Bozizé. Mais c'est des acteurs principaux dans ce qui se passe en Centrafrique. Qu'est-ce qu'un Congolais a à être aujourd'hui présenté comme un acteur principal et des députés congolais, le chef de l'État ne s'y implique pas, je suis désolé.
Docteur Boissard.
Moi, la réponse de mon ami Jean Bouillou, c'est un ami personnel, ne m'étonne pas. C'est la réponse de sa famille politique. Et au fait, je pense que ce soir, ils sont en train de servir le champagne. Non, je ne suis pas surpris. Je continue à dire que cette CPI, c'est un machin. Je continue à dire aussi que cette CPI, aujourd'hui, vit grâce à la République démocratique du Congo, qui lui livre ses enfants, hein, à tout moment. Et mais on verra, hein, qui vivra, verra. Mais la réponse de mon ami Jean ne m'étonne pas du tout. Au contraire, je m'y attendais. Il voilà. S'est réjoui, c'est normal.
Il était en ligne et il vient de faire son entrée dans ce studio. Nous accueillons Maître Jean Bouillou. Votre commentaire pour ce dernier tour de table.
Oui, d'abord, le docteur lui-même a dit qu'il n'était pas étonné de la décision. Alors, il s'étonne que moi, je ne sois pas étonné. Ça m'étonne. Alors, disons, ce n'est pas, je veux dire, à l'honorable Boussa, que ce n'est pas une fierté nationale cette arrestation de Jean-Pierre Bemba. C'est dommage que ce soit notre pays dans lequel on a parlé de cannibalisme en plein 21e siècle. C'est dommage pour un citoyen du Congo qui soit impliqué dans des crimes graves à l'extérieur du pays. C'est pas une fierté. Mais lorsque le tribunal pénal international instruit l'affaire et qu'elle arrive à des conclusions, nous sommes tenus au respect de ces conclusions-là. C'est pas ce que je dirais.
Voilà, clos ce débat sur la liberté provisoire de Jean-Pierre Bemba. Nous allons aborder à présent notre sujet du jour. L'Assemblée nationale a adopté au cours de sa plénière d'hier mardi le projet du budget de l'État pour l'exercice 2010 après l'avoir déclaré recevable le 16 octobre 2009 et envoyé à la Commission économico-financière pour un examen approfondi. Le projet du budget pour l'exercice 2010 s'élève à près de 6 milliards de dollars. Comment se présentent les prévisions des recettes du budget de l'exercice 2010? La réponse avec vous, Kevin Côté.
Dans la nouvelle configuration, les prévisions des recettes du budget de l'exercice 2010 se présentent de la manière suivante. Les recettes proposées par le gouvernement étaient de plus de 470 millions de dollars. Les recettes additionnelles dégagées par la Commission sont de l'ordre de plus de 126 millions de dollars, ce qui ramène le projet de budget 2010 à près de 6 milliards de dollars. La Commission a indiqué que les recettes additionnelles proviendront essentiellement des secteurs des mines et des télécommunications. Comparé au budget de l'exercice 2009, il se dégage un taux d'accroissement de 84,9%. La Commission a signifié que les prévisions des recettes des provinces ont été maintenues comme telles parce que arrêtées des communs accords entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux. Quant aux recettes extérieures, la Commission les a revues à la baisse, soit de 53,4% initialement prévu par le gouvernement à 48,5%. Dans l'ensemble, la Commission a consacré 49% aux investissements, 9% au fonctionnement et 23% à la rémunération.
Maître Jean Bouillou, le projet du budget 2010 adopté, mais la grande question que se pose le peuple congolais, quelles en sont les priorités?
Bon, je crois que les priorités, lorsqu'on a suivi les travaux de la Commission économique et financière du Parlement, à voir de près, il y avait plus ou moins quatre priorités. Il y a d'abord 2010, l'année du point d'achèvement, donc le respect de nos engagements dans le cadre des PPTE. Si nous arrivons à respecter ce que nous avons convenu avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, nous pourrions espérer que la dette soit annulée plus ou moins de 80% et que donc on soit allégé, on ne garde que 20% de dette. Et le gouvernement s'est engagé dans la ligne de dire que dans le budget 2010, on doit absolument parvenir à un respect des principes tels que nous puissions atteindre le point d'achèvement au plus tard le 30 juin 2010. Et il faut également dire que l'une des priorités, c'était les fonds de contrepartie. En fait, pour les assistances extérieures, disons, qui sont des dons, qui ne sont pas des prêts, il est toujours demandé que la République disponibilise à peu près, disons, une partie pour faire des projets communs à partir des dons. Souvent, nous n'arrivions pas à disponibiliser cette contrepartie. Cela faisait que nous n'accédions pas à certains dons. Donc, le gouvernement s'est fixé également comme objectif, et le Parlement a reconfirmé cela, le fait que nous devons, en 2010, respecter cet équilibre pour les fonds de contrepartie. Et le troisième objectif a été, évidemment, les cinq chantiers, le financement des travaux du domaine des infrastructures. Et là, évidemment, tout le monde en sait quelque chose, donc le budget s'oriente de ce côté-là. Et enfin, il a été projeté une augmentation de rémunération dans le cadre de la fonction publique, de l'enseignement, de la police, de l'armée.
augmentation qui se fait évidemment en pourcentage par rapport au budget 2009. Donc je dirais que c'est ce que j'ai entrevu à travers tout ce qui a été préparé à la commission ECOFIN comme priorité qui ont fait ressortir le budget. Jean-Lucien Boussa, membre également de la commission ECOFIN, vous confirmez ces priorités?
Oui, mais c'est vrai, la politique budgétaire poursuit quelques objectifs généraux, notamment la croissance économique, la stabilité des prix, l'emploi et la stabilité extérieure. Et je pense que ça, c'est des objectifs transversaux. Tous les budgets de tout le monde, de tous les pays du monde poursuivent ces objectifs. Parce que, comme vous savez, si le cadre macroéconomique n'est pas stable ou stabilisé, tout le reste vole en éclat. Et vous vous rappelez de l'épisode de dépréciation de la monnaie congolaise. Et donc, lorsque la monnaie se déprécie à plus de 100%, vous n'avez rien lorsque vous aviez un salaire de 100 dollars.
Mais ben, je pense... Excusez-moi, en parlant de la dépréciation de la monnaie, le taux d'échange fixé à 950,600 en francs congolais pour un dollar américain, qu'est-ce qui prouve qu'on ne connaîtra pas la même situation dans l'exercice prochain?
Ben, je voudrais vous dire d'abord l'objectif prioritaire de la commission ECOFIN, donc de l'Assemblée nationale, était d'abord de pouvoir disposer d'un cadre macroéconomique réaliste. Et ça rejoint la question que vous posez. Quelle est la garantie que nous avons en fixant les taux d'échange d'un dollar à 950,6 taux d'échange moyen? Ça sera respecté. Nous avons voulu tenir compte de la réalité sur le terrain, n'est-ce pas? Mais la responsabilité de garantir les cadres macroéconomiques stables, c'est de la responsabilité du gouvernement. L'Assemblée nationale est l'autorité budgétaire. Nous avons trouvé de nouvelles recettes. Ça vous fait 1,250 milliard de dollars que l'Assemblée nationale a trouvé comme recettes additionnelles.
D'où viennent ces recettes?
Ces recettes viennent d'abord de l'OFIDA, de l'application intégrale de la taxation sur les sociétés de communication. Vous savez, toutes les sociétés de communication ne paient pas toutes les taxations, comme ils voient, conformément à la loi. Il y a des taxations spéciales sur les cigarettes, n'est-ce pas? Et nous avons examiné la question et nous sommes rendus compte qu'il y a des recettes qui ont été éludées par les gouvernements de l'ordre de 1,250 milliard de dollars américains. Je voudrais, en passant, signaler à l'opinion que depuis que nous sommes au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons réussi à placer le budget dans une orbite positive, c'est-à-dire que depuis que l'Assemblée nationale est là, nous avons trouvé des recettes additionnelles de 2,5 milliards. Le problème, c'est non pas au niveau de l'allocation de ressources, nous avons toujours tenu compte des projets d'investissement. Et cette fois-ci, l'Assemblée nationale, au vu des additionnels, a proposé plus de 40% aux dépenses d'infrastructures, c'est-à-dire aux dépenses d'investissement productif.
Mais n'y avait-il pas moyen de trouver plus que ces recettes additionnelles que vous avez...
Le déficit fiscal congolais est très immense. La preuve, c'est que l'Assemblée nationale, qui a 3 semaines ou 1 mois maximum pour faire le travail que le gouvernement doit faire pendant 1 an, trouve des recettes de l'ordre de 1,250 milliard de dollars américains. Ça veut dire que la responsabilité du gouvernement est pleine dans la quête de recettes additionnelles. Parce que sans ressources, il n'y a pas de dépenses. Par rapport aux dépenses, je vais terminer par là. Par rapport aux dépenses, je voudrais signaler que le problème aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale, qui a permis d'ajuster finalement le budget du gouvernement, n'est-ce pas, doit à l'obligation de savoir que ce gouvernement exécute le budget tel que l'Assemblée l'a voté, parce que c'est une loi. Or, si ce point de vue, vous savez très bien que le gouvernement ne suit pas la ligne telle qu'est tracée par l'Assemblée nationale et il est impuni.
Docteur Boissa, comment vous avez accueilli l'adoption de ce budget?
Bon, d'abord, vous savez que je suis un ancien parlementaire et j'ai même été membre de la commission économique et financière, je m'occupais des rémunérations. Bon, moi, je crois que c'est une très bonne chose que, pour une fois, l'Assemblée nationale ait adopté le budget de l'État avant le 31 décembre 2009. C'est déjà quelque chose.
Mais c'est positif. Attendez.
Mais qu'est-ce que ça change avant le... vous savez, depuis le 6 décembre 2006 jusqu'à ce jour, les budgets votés par l'Assemblée nationale sont toujours en augmentation, hein. En augmentation. Et la misère ne fait que, ne fait qu'augmenter aussi la misère du peuple. Parce qu'il se pose dans notre pays un problème, c'est le problème de l'exécution du budget. Et vous êtes tous au courant de ce qui s'est passé au début de cette session, lorsque l'opposition a demandé qu'on commence par la discussion sur l'exécution du budget, ça s'est terminé en coup de poisson, n'est-ce pas? Et donc, les chiffres là qu'on donne, c'est bien. À mon avis, c'est un mirage. Je n'y crois pas encore. Je voudrais vivre ça. Ça, c'est un des deux. Vous savez que pour atteindre les recettes, c'est tout un grand problème. Parce que jusqu'à présent, mes amis qui sont au Parlement ne m'ont pas encore dit dans ce budget quelle est la part qui sera apportée par l'extérieur et quelle est la part intérieure du budget. Hein? Parce que c'est important aussi. Détroit, vous savez que en juin 2006, on annonçait déjà qu'on allait arriver au point d'achèvement. Nous sommes en 2009, hein, et nous ne sommes pas encore. Parce que la discipline dans la gestion budgétaire n'est pas encore au rendez-vous. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, le gouvernement, dans son versant, dans son volet économique et financier, est encore sous tutelle du président de la République. Donc c'est quelque chose qui ne va pas. Hein. La chaîne de la dépense ne fonctionne pas comme il se le doit. Et donc, moi je suis content que le budget soit voté. Nous attendons, parce que ce n'est qu'une manche, hein. Ce budget doit faire la navette, aller au Sénat, va subir ce qu'il va subir, et puis il y aura la commission paritaire qui va se réunir. C'est à ce moment-là qu'on pourra bien commenter ce budget, parce qu'il a été voté par l'Assemblée nationale, mais c'est en première lecture. Nous attendons que ce budget soit discuté au Sénat. Nous attendons également les résultats de la commission paritaire Assemblée nationale, Sénat.
Mais à ce niveau, déjà, vous avez des doutes quant à l'amélioration du social du Congo.
C'est tout à fait ça. Tout ça, c'est bien. Mais de un, je doute de l'exécution de ce budget. De deux, je doute des résultats que ce budget va produire dans le vécu quotidien du Congolais. Et je crois que c'est ça le problème le plus important qui nous intéresse. Alors, on a parlé, mon ami Jean Bouillou a parlé des fonds de contrepartie. Il sait lui-même, parce que c'est un spécialiste, que les fonds de contrepartie, c'est comment c'est géré. Hein. C'est géré au niveau du ministère du Plan, et je ne sais pas sous quel contrôle, jusqu'à ce jour. Parce que même quand le président de la République a décidé de contrôler les dépenses, les dépenses du fonds de contrepartie n'ont pas été l'air d'avoir inclus dans ce contrôle.
Les fonds de contrepartie, c'est les fonds liés à l'aide extérieure.
Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, j'attends. Voilà.
Maître Jean Bouillou, il y a Sakou Lissefou de Kalemi au Katanga qui dit « Les budgets de la RDC seront-ils appliqués au ciel ?» Il se demande. Hein. « Qu'on cesse de distraire le pauvre Congolais, car les budgets de notre pays sont prévus en faveur des gouvernants. » Biscotte Katende de Kananga au Kasaï occidental. « Les 6 milliards de dollars ne serviront à rien, car c'est chaque année que les chiffres augmentent, mais le social ne fait que régresser. » Robert Kasonga de Lubumbashi au Katanga, sur quelle base le gouvernement s'est-il basé pour établir le budget ou compte-t-il sur l'appui des partenaires étrangers? Quelle est la part réservée aux élections locales? Maître Jean Bouillou.
Oui, merci pour ces auditeurs qui ont réellement le souci de voir clarifier certaines choses. Je conviens que le budget pose toujours un problème.
D'abord, il sera appliqué ici au Congo et pas au ciel.
Il sera appliqué sur Terre, malheureusement. Le budget, c'est toujours une prévision de recettes et de dépenses. Mais le contribuable, celui qui apporte l'argent, c'est le citoyen ou les organismes commerciaux et autres au sein du pays. Donc le budget, ce n'est pas que l'État va accueillir l'argent ou ramasser l'argent de quelque part. Le budget, ça veut dire qu'on prévoit ce que chaque citoyen va donner comme contribution aux charges collectives. Et souvent, notre population ne comprend pas ça très bien, hormis le fait que même il y a des gens au niveau de gouvernement qui ne comprennent pas cela. On ne comprend pas que c'est notre capacité de travail qui permet aussi d'enrichir notre budget. Il y a évidemment l'autre aspect, notre capacité de gestion ou de bonne gestion de ce qui aura été donné en contribution par chaque citoyen.
Ouais, et Jean-Lucien Boussa parlait de l'impunité, hein, la mauvaise gestion et le gouvernement gère mal, mais reste impuni.
Ben écoute, n'allons pas trop vite en besogne. Il y a déjà eu énormément d'améliorations, mais le vrai problème,
mais jusque-là, il n'y a pas encore un ministre qui soit arrêté, qu'on voit en prison, et pourtant, il y a des détournements de prison.
Bon, je pense qu'il faut répondre correctement, comme le chef de l'État lui-même l'a dit un jour. pour envoyer quelqu'un en prison, il faut qu'il y ait des preuves. Qui constate les preuves, c'est le pouvoir judiciaire. Donc, il ne faut pas qu'on intervertisse les rôles. Et donc là, je ne veux pas entrer dans ce débat de la justice, est-ce qu'elle fait son travail ou pas, mais il n'est que normal que si au niveau de l'exécutif, on constate quelque chose qui ne marche pas, il faut laisser actionner les mécanismes du pouvoir judiciaire. Sinon, si eux, ils prennent des gens, ils disent non, ils ne sont pas coupables, ils sont blancs alors qu'ils sont noirs, bon, alors là, il y a la limite du respect du fonctionnement des institutions, sans pouvoir, évidemment, défendre un côté ou un autre. Il peut exister des failles à différents niveaux. Mais je voudrais également dire au deuxième auditeur que ce budget, il a une préoccupation sociale. Dans la lecture que j'en ai faite, par exemple, le point d'augmentation de rémunération, l'augmentation ne sera pas très ressentie, parce que c'est une augmentation qui va s'effectuer en termes de pourcentage, en termes de masse monétaire budgétaire.
Et surtout que l'effectif des fonctionnaires n'est toujours pas connu aujourd'hui.
Pas connu pour des raisons diverses. Et donc, il y aura une augmentation, mais probablement elle ne sera pas assez ressentie, parce qu'elle n'est pas faite en fonction des besoins réels sociaux, mais elle est faite en fonction des masses monétaires, en pourcentage, et ça peut se réduire sur le plan des rémunérations à une augmentation de 30%, 40%, 50%, mais qui n'est pas substantielle par rapport au coût de vie. Enfin, je voudrais également ne pas rater l'occasion pour dire que il y a certaines affirmations que nous devrions éviter. Par exemple, dire que le gouvernement est sous la tutelle du président de la République. Non. Le gouvernement fonctionne sous la conduite du Premier ministre.
Le président a-t-il déjà rendu sa signature au Premier ministre aujourd'hui?
Non, les institutions fonctionnent normalement, mais il est évident que par rapport aux institutions avec lesquelles nous sommes en accord, comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui dressent trimestriellement une fiche de dépenses prioritaires, par rapport à ces institutions, le président de la République veille à ce que cette fiche-là soit observée, qu'il n'y ait pas de dépenses en dehors de la fiche qui est convenue. Et c'est ce qui a été reproché à un moment donné au gouvernement, de réaliser des dépenses qui n'étaient pas en priorité sur la fiche convenue avec les partenaires financiers extérieurs. Mais ceci, du point de vue du fonctionnement, aujourd'hui, ce fonctionnement a été ramené à un niveau tout à fait normal, et donc c'est le Premier ministre qui exerce la plénitude de pouvoir sur cette question, sous le contrôle évident et vigilant du chef de l'État et par rapport à nos engagements extérieurs.
Jean-Lucien Boussa, les recettes additionnelles proviendront essentiellement des secteurs des mines et des télécommunications. Le gouvernement congolais ne sera pas une fois de plus trahi par le climat financier mondial?
Non, mais nous serons le premier gouvernement qui se plaint tous les jours. Le rôle du gouvernement n'est pas de se plaindre. Le rôle du gouvernement, c'est de trouver des réponses précises aux questions précises que lui posent ses citoyens. Il s'agit des questions de développement économique, mais ici, il s'agit aussi des questions de développement social. La situation des Congolais. Lorsque le Premier ministre présente son gouvernement à l'Assemblée nationale, il ne nous indique pas comment il compte réduire le chômage. Vous savez que les données actuelles sur le chômage indiquent que 94% de Congolais sont au chômage, alors qu'une politique budgétaire devrait poursuivre comme objectif aussi la réduction du chômage, n'est-ce pas? Lorsque on vous présente le budget, 80% de nos citoyens vivent en deçà du seuil normal de pauvreté. Ils sont pauvres, n'est-ce pas? Certains ne mangent pas tous les jours. Et là, il n'y a pas de réponse claire par rapport à cela. Je pense que la question budgétaire, ce n'est pas simplement la question des prévisions budgétaires. Parce que lorsqu'on a fait des prévisions, on a la certitude que ces moyens existent et qu'on peut les mobiliser. On n'a pas besoin d'un gouvernement qui a pour ambition un effort minimaliste. Ah non, pas du tout. Donc je considère que le gouvernement a la responsabilité de bien exécuter son budget en tenant compte des priorités des citoyens. Il ne faut pas renverser les priorités. Ce qui se passe souvent dans l'exécution du budget, c'est quoi? C'est des millions de dollars déversés à une oligarchie, n'est-ce pas, qui ne sait pas justifier son enrichissement facile. Vous allez au GB, vous allez partout dans la ville, vous trouvez des personnes qui ont été nommées ministres, qui n'avaient des maisons à la Gombe, qui aujourd'hui construisaient des immeubles dans tout le pays. Dites-moi, ce n'est pas un indice qui permet au pouvoir public de se poser la question par rapport à l'origine de ces fonds, et donc de contrôler des ministres? Je pense que là-dessus, il y a un vrai débat sur la bonne gouvernance. Il ne suffit pas de clamer tolérance zéro, faut-il encore agir?
quelques auditeurs, plusieurs auditeurs nous écrivent, nous allons prendre quelques réactions encore. John Ntou et Bunga de Baraka au Sud-Kivu, les 6 milliards de dollars n'auront aucun impact sur la vie des Congolais, car ils sont insuffisants et les détournements sont devenus un repas quotidien de nos gouvernants. Malonga Koubali de Bandundouville, toujours des montants budgétaires qui ne changeront rien dans le social du peuple congolais, pas de majoration de salaire pour les fonctionnaires qui pouvaient garantir la stabilité sociale. Tonton Kandé de Kananga au Kasai Occidental, de 2007 à 2010, l'Assemblée nationale peut-elle évaluer en pourcentage le budget de l'État et nous dire s'il y a eu des avancées? Pourquoi nos élus acceptent toujours de voter des budgets qui ne répondent pas aux attentes de la population? Jean-Lucien Boussa, très brièvement.
Ben, plusieurs questions. Pour la plupart d'observations, je suis d'accord. Tous les intervenants posent un seul problème. Comment le gouvernement qui est venu avec un programme compte-t-il résoudre les problèmes des citoyens, à la fois de façon conjoncturelle, mais aussi de façon structurelle? C'est là le débat. Et là-dessus, il y a une véritable défaillance. Maître Mbuyu vient d'affirmer ici que le chef de l'État, par rapport aux prescrits des accords que nous avons avec les bailleurs de fonds, a constaté qu'il y avait des dérapages. Maintenant, c'est une justification politique à la question technique, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on en a fait? Il y a une motion de défiance contre le Premier ministre. La majorité a soutenu le Premier ministre malgré toutes les faiblesses constatées dans le chef du Premier ministre par rapport à la gestion.
Ça fait sourire, Maître
Mbuyu. C'est une responsabilité.
Il y aura la parole tout à l'heure. Docteur Boissa, il y a Pascal de Lubumbashi au Katanga qui dit « Le budget en RDC reste une formalité administrative. Il ne reflète jamais la réalité et n'a jamais été respecté dans la réalisation des recettes et des dépenses, ce qui signifie que la RDC est encore à 50 ans du développement. » Michel Misambo de Gbadolité, dans la province de l'Équateur, « Voilà 3 ans. Depuis que l'Assemblée nationale vote des budgets qui ne résolvent pas les difficultés du peuple, ces budgets ne servent qu'aux politiques et aux députés. »
Mais voilà des observations tout à fait pertinentes et tout à fait d'actualité, parce que c'est vrai ce que dit ce compatriote, je l'en félicite d'ailleurs. Mais revenons sur la rien, parce que j'en profite quand même, vous savez que moi je ne suis pas au Parlement comme mes deux...
Vous êtes de l'opposition,
mais je suis quand même un député honoraire. Je sais pas, moi je voudrais poser la question à mon ami l'honorable Jean Bouillou. Est-ce que c'est vrai que la lettre du président de la République au Premier ministre signée le 28 mai 2009 a été rapportée, hein? Parce que par cette lettre, contrairement à ce qu'il vient de dire ici, et c'est un grand juriste, c'est un défenseur des droits de l'homme, il sait que par cette lettre-là, le cabinet du président est entré dans la chaîne de la défense, quelque part. Hein? Donc, ça, c'est une question de deux. Bon, il a avoué lui-même que le président a constaté les dérapages dans la gestion des finances publiques, et le chef d'État a raison de constater cela. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais je sais pas. C'est pour quel résultat qu'en fait, il n'y a pas eu sanction? Parce que lorsqu'on constate qu'un gouvernement est incapable de gérer un budget, on le remercie, n'est-ce pas? Bon, alors, j'en viens à certaines petites questions. Celui qui apporte l'argent, c'est le contribuable. Oui, maître. Mais malheureusement, est-ce que ce contribuable sait après cet argent, ça sort? On voit ça ici avec la DGSK. Hein? Nous apportons l'argent, et puis c'est tout. Hein? C'est pour acheter les véhicules pour les députés provinciaux, c'est pour que ces gens se construisent des villas et tout. Mais la ville, si vous la comparez à la ville de Lubumbashi, je sais pas. Hein? Alors, j'y vais encore, toujours dans le budget, parce que nous y sommes, histoire des 40%. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Parce que nous sommes devant un grand juriste ici. Hein?
40% rétrocéder
au le rétrocession ou retenir la source? Que dit la Constitution? Bon, alors, il a parlé aussi du pouvoir judiciaire. Oh, c'est bien, je suis content. Mais qui doit saisir le pouvoir judiciaire? Ça, c'est un des deux. Mais finalement, qui contrôle ce pouvoir judiciaire? Parce que c'est un problème, ça. Parce qu'on a beaucoup de problèmes avec ce fameux pouvoir judiciaire. Et lorsqu'on parle des effectifs des fonctionnaires qui sont inconnus, non, ne racontez pas des histoires, c'est pas vrai. Les effectifs des fonctionnaires sont bien connus par les différents ministères. J'ai dirigé, moi, la commission de rémunération du Parlement, et je sais comment ça se passe. Hein? C'est bien connu, mais on tripote dedans pour se servir. Alors, maintenant, j'ai suivi le budget de rémunération, c'est 23% du budget des dépenses. Oh non, même du temps de Mobutu, le budget de rémunération atteignait au moins 35%. Ça signifie quoi? Et merci beaucoup, Maître Mbouyou, hein, de constater qu'au fait, ce qu'on a fait dans le budget de rémunération, c'est pour faire un peu de saupoudrage. Le pauvre fonctionnaire, il ne sentira rien du tout, parce qu'au fait, on a pas fait grand-chose. Mais maintenant, si nous entrons là-dedans, moi j'aimerais qu'on nous dise quelle est la part qui revient au budget des institutions politiques. Hein? Bon, il y aura problème. Hein? Donc, c'est dire que si j'ai dit que j'exprimais des réserves sur ce budget, c'est parce que je sais que ce budget, à mon avis, sera comme les budgets des années antérieures.
Rien ne changera donc.
Mais voilà.
Maître Jean Bouyou, Rosette Naïmouna de Kindu dans la province du Maniema dit « Les priorités pour le budget 2010 devraient être le social et la sécurité, mais je pense que la plus grande priorité sera l'enrichissement des personnes au pouvoir au détriment de la population victime des tracasseries fiscales et sécuritaires. » Jules Verne Kamavu depuis Butembo, « Le budget est toujours pour les gros poissons pendant que le peuple vit dans la misère la plus grave. Le peu que l'on donne aux travailleurs n'arrive même pas à destination. La tolérance zéro est pour les faibles et les pauvres.
Oui, cher ami, merci bien. En fait, on ne dit que du négatif. D'abord, le budget lui-même. De quoi, toutes les années antérieures, à quoi il est dépensé? Il est dépensé essentiellement, comme l'a dit le docteur Boissa, il est dépensé sans rémunération, qui avoisine toujours, qui sont toujours autour de 35 à 40%.
Mais on a des dépassements budgétaires qui ne vont pas toujours dans le sens des rémunérations.
Bien sûr, lorsque vous êtes attaqué par un pays voisin, vous devez réagir, et l'argent qui y va, eh bien, c'est le budget. Donc là, si vous voyez, vous lisez les dépassements des 4 dernières années, vous allez vous rendre compte qu'ils sont dus aux dépenses militaires, qui étaient évidemment toujours des improvisations. Mais je voudrais insister sur le fait que lorsqu'on parle budget, on parle chiffres, n'oubliez pas que les fonctionnaires, les médecins, les enseignants qui sont payés à travers la République, quoique ce montant ne soit pas ce que nous voulons qu'il soit, ces gens-là sont payés par le budget de l'État. Et il ne faut pas oublier ça. Le peu qui marche au sein de l'État, il est fait par cet argent-là du budget, c'est-à-dire par les contributions de chacun et des entités qui sont au sein de l'État. Donc il ne faut pas dire que du négatif, il ne faut pas être blind, donc être aveugle. Et il faut voir.
Ils attendent que ça s'améliore, mais.
Mais écoutez, ils attendent que ça s'améliore, comme tout être humain attend que ça s'améliore. Quand vous suivez les débats budgétaires aux États-Unis, en Europe, en Asie, vous rencontrez les mêmes préoccupations. Chaque camp défend qu'il n'y voit pas clair et il ne trouve pas son compte.
Même les députés.
D'une certaine manière, les députés subissent la même loi que tout Congolais. Et je crois que je ne viens pas plus en détail. Mais je voudrais insister et revenir sur un point essentiel, notamment en ce qui concerne la question du rôle du pouvoir judiciaire pour le respect ou la bonne exécution du budget. Ceci est un pouvoir indépendant. N'oublions pas que la justice est un pouvoir indépendant et se réclame indépendant. Et donc, c'est à elle que revient la mission de contrôle des institutions. Et les pays ont parlé quelques années, quelquefois, de la République des magistrats. Et c'est important qu'on sache que ce pouvoir indépendant, il est différent de l'exécutif, il est différent du législatif, et il doit jouer son rôle. Je voudrais également relever un élément que j'estime important. Alors, nous débattons justement la question du budget. Les 40%, et je n'ai aucun rôle de défendre le gouvernement pour ça, les 40% prévus comme rétrocession, au regard des lois et de la Constitution, doivent être tenus à la base. Et donc nous continuons, nous les députés des provinces, à réclamer que ce principe constitutionnel soit appliqué dès 2010, si nécessaire.
Jean-Lucien Boussa, parmi les difficultés, la Commission économique et financière a noté par exemple que beaucoup de ministres n'ont pas répondu à son invitation pour clarifier certains points. Ne craignez-vous pas que l'on reste là dans un flou qui semble entretenir quelque part?
Ben bon, je pense que c'est de notre responsabilité de pouvoir créer les conditions pour que les ministres respectent l'Assemblée nationale, tout simplement. Lorsqu'ils savent que même s'ils ont détourné, il n'y aura aucune sanction. Ils ne respectent plus l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est tout simplement ça. Mais je voudrais revenir sur une question intéressante. La justice. Lorsqu'on dit qu'il appartient à la justice de faire, mais la justice, c'est tout le monde le sait comment elle marche dans ce pays. Elle est au service d'une logique, d'une conception et d'une pratique du pouvoir. C'est clair, on le sait. Deuxième élément, mais que peut contrôler ? Est-ce que la justice qui doit contrôler les effectifs des militaires, des forces armées ? Est-ce que c'est la justice qui doit nous donner les effectifs de la police nationale ? Est-ce que c'est la justice qui doit vérifier les effectifs de la présidence et de la primature, de l'Assemblée nationale et du Sénat, pour ne parler que des institutions ? Non ! Il y a une démission coupable, sinon une démission complice. On sait que le nombre de militaires qui sont payés n'est pas le vrai nombre. C'est plein de fictifs. Et cet argent va où ? Ça va dans la construction des immeubles, des colonels, des généraux, de tout ce monde qui dirige l'armée. C'est tout simplement cela. On sait que certains effectifs ne sont pas contre. Est-ce qu'on peut comprendre que dans la primature, en République démocratique du Congo, que vous avez plus de 200 conseillers ? Pour faire quoi ? Alors que les responsabilités sont bien définies, alors qu'il y a des ministres qui doivent travailler là-dessus. Non, c'est un problème. Et aujourd'hui, il n'y a aucune personne qui puisse demander au Premier ministre, alors que l'opposition a crié haut et fort, de redimensionner cet effectif. Ce n'est pas possible. Donc il y a des choses qui relèvent véritablement de la volonté du pouvoir politique. Parce que sans cette volonté, rien ne sera fait. Nous reviendrons ici pour débattre de la même question avec les mêmes arguments.
Roger Yamafulo de Kinshasa vous demande, hein, Jean-Lucien Boussa, le gouvernement a-t-il pensé à la dette publique dans le projet de budget 2010 ? Nous sommes bloqués pour reprendre les activités économiques, nous, les petites et moyennes entreprises.
Je crois que la question en rapport avec le gouvernement devrait être dirigée plutôt sur Maître Mbouye, qui est la majorité.
Disons que vous, en tant que membre de la commission.
En tant que membre de la commission, donc je voudrais vous dire que c'est vrai. Au niveau de la commission Ecofin et au niveau de l'Assemblée nationale, nous pensons que la priorité devrait être donnée au paiement de la dette intérieure. Pourquoi paiement de la dette intérieure ? Parce que permettre de réactiver le circuit économique national pour nous permettre de développer des affaires qui participent à la croissance économique. Malheureusement, nous prévoyons des chiffres, mais lors de l'exécution, on privilégie d'autres priorités.
Docteur Boissa. Il y a André Tamboué de Kananga au Kassai Occidental qui dit « À quoi sert le vote du budget en RDC puisqu'il y a aujourd'hui 3 ans que les salaires restent inchangés malgré le coût de vie actuel ?»
J'ai déjà dit en liminaire que le vote de ce budget, le vote provisoire de ce budget, c'est une histoire dont on attend les résultats. D'abord, ce n'est pas le vrai budget, c'est un des deux. Et tant que nous sommes avec les frères qui sont aux affaires, et si on est en face du même gouvernement, les mêmes causes produiront les mêmes effets, et donc nous n'attendons rien de ce budget. Il n'y a rien à attendre de ce budget parce qu'il sera exécuté de la même manière. L'année dernière, il avait été démontré que 40% des bons d'engagement sont tombés en annulation le 31 décembre 2008. C'est connu de tous. Et le ministre qui était responsable de ça est bien connu, bien identifié, et il est de plus en plus fort au gouvernement. Donc c'est dire que, je rassure ce frère, il a raison, pour le moment il n'y a rien à attendre, mais nous espérons que si on remanie, si on change la façon de travailler, eh bien je pense que c'est quand même un progrès d'avoir un budget de 6 milliards, au lieu de 1 milliard, comme du temps du maréchal.
Puisque vous avez la parole, docteur Boissa, votre conclusion en 15 secondes.
Bon, concernant le budget, moi je pense que le budget c'est un instrument essentiel pour la gestion d'un État. Ce budget comprend un volet dépenses, un volet recettes. Il faut absolument que les deux volets soient exécutés correctement et que la chaîne de dépenses, cette fois-ci, soit respecté.
Maître Mbouyou, votre conclusion aussi, parce que l'émission va toucher à sa fin.
Bien, merci. Je crois que j'ai eu affaire à un langage d'opposant aujourd'hui qui voit tout en négatif, même celui qui a élaboré le budget à l'Ecofin, mon collègue Boussa.
Allez-y, rapidement, on va clôturer.
Oui, je voudrais simplement souhaiter que j'y ai pour la première fois de 6 milliards, connaissent une exécution parfaite pour permettre qu'il y ait un peu plus dans le panier et qu'il y aura un peu plus chez chacun des citoyens congolais. Mais le budget, c'est d'abord
la recette, c'est-à-dire la contribution au panier collectif. Ce n'est pas seulement la dépense.
Merci. Jean-Lucien Boussard.
À la corruption institutionnalisée, à la mauvaise qualité de la dépense publique et au détournement des recettes publiques, en ce moment-là, ça pourra permettre d'aller de l'avant.
Cette émission est terminée. Merci de l'avoir suivie. Réalisation Guy Maté et Kevin Couté. Mise en onde Sylvain Baogwere. Présentation Alain Hirung. Coordination Martin Seboujangwe. Retrouvez cette émission sur www.radiocapi.net. Au revoir.